Voilà, mais bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par reprendre un petit peu les principaux points de la précédente conférence qui a été tenue par Dominique Holvout et qui concernait les séances 7 à 11 du séminaire sur le transfert. Alors, Dominique Holvout a commencé par nous rappeler que la question du transfert est vraiment une question qui avait traversé toute la psychanalyse et toute son histoire, et qui, pour le coup, à certains moments, avait différencié certains courants en psychanalyse, notamment autour de la question du contre-transfert. Alors, il nous a donc rappelé que pour Freud, finalement, sa construction autour du transfert s'est faite progressivement et qu'il tenait compte, lui, du contre-transfert. Et que ce genre d'entretien dans lequel était finalement mis en parallèle le transfert et le contre-transfert étaient des entretiens qui se bâtissaient sur un modèle d'entretien intersubjectif où l'intersubjectivité avait sa place. Alors, Freud, se différencie de ce que Lacan va développer, puisque lorsqu'on est dans l'intersubjectivité, on est dans une sorte de symétrie des positions de l'analyste et de l'analysant. On est, au fond, dans une relation à deux termes, là où Lacan parlera plus tard d'une relation à trois termes. Freud a commencé à parler donc du transfert dans les études sur l'hystérie en 1865. Et la première chose qui pointe, c'est au fond que cet amour qui surgit à un moment dans la cure et qui pointe le transfert, eh bien, il a quelque chose de dérangeant. Mais à la fois, il est ambivalent puisqu'il est moteur du travail analytique, mais en même temps frein à ce travail. Il va également conceptualiser la question du transfert autour du cas Dora en 1905 dans les cinq psychanalyses, et en montrant à ce moment-là qu'au fond, les symptômes disparaissent durant le temps de la cure, mais toute la dynamique, si je peux dire, du névrosé va se déplacer dans le transfert à travers d'autres types de productivité. Il va aussi se demander en quoi l'amour de transfert, finalement, en 1915, dans le texte « Remarque sur l'amour de transfert », en quoi l'amour de transfert serait-il différent de l'amour au sens classique, au sens classique, ça c'est à définir, mais disons, est-ce qu'il a une spécificité, cet amour de transfert, et est-ce qu'il est surtout pure répétition d'événements passés pour le sujet qui seraient rejoués à l'adresse de l'analyste dans la cure? Donc, finalement, Dominique Holvout nous indique que le transfert, il convoque trois questions. La première, qu'on pourrait dire, comment cet amour de transfert s'inaugure-t-il dans ce travail de parole qui a lieu dans une cure analytique? La deuxième question étant, comment fonctionne-t-il dans ce travail? Est-ce qu'il n'est que pure répétition du passé? Et la troisième question, qui concerne la fin de la cure analytique, comment est-il liquidé cet amour de transfert? Et, nous dit-il, Lacan indique que la façon d'envisager ces questions, pour Lacan en tout cas, est de le faire à partir de la position de l'analyste et de ce qui fait le désir de l'analyste. Alors, contrairement donc à... Enfin, d'abord, ce que Freud pointe, c'est que ce n'est pas une pure répétition, puisque au fond, dans la cure, à travers la parole, il y a quelque chose de l'ordre de l'acte qui se joue, et donc ce n'est pas une pure répétition du passé. Et au fond, que ce qui est important, c'est justement que voilà, on va s'adresser à quelqu'un, et donc que ça donne un écart entre une simple répétition du passé et ce qui a lieu dans la queue. Alors il nous a aussi expliqué que la fin du transfert, c'était vraiment une question au niveau de la cure analytique, en ce sens que c'est quelque chose de paradoxal, puisque le transfert est à la fois interprétable, mais il est aussi la condition de l'interprétation. Et donc on peut se dire que pour faire l'ultime interprétation qui effacerait ce transfert, on a quand même besoin du transfert pour pouvoir la faire. Donc c'est un problème de logique, et c'est ce que j'ai voulu noter sous le tiret fini ou infini. Est-ce que c'est possible d'en finir avec le transfert et avec la cure, au fond? Alors, tout cela, ça se déroule sous la condition, indique Lacan, que le sujet ne sache pas au fond ce qui est en jeu et ce qu'il vient dire là, et que ce « il ne savait pas », c'est exactement ce que incarne Socrate, et c'est pour ça que Lacan a fait appel au fond au banquet de Platon pour entrer dans ce séminaire. Et ce « il ne savait pas », ce fait d'être en position de non-savoir, en fait permet l'émergence du transfert. S'interroger aussi sur la place, au fond, qu'incarne l'analyste sur le lieu, au fond, duquel il se trouve, c'est parler du désir de l'analyste et définir les coordonnées que l'analyste doit être capable d'atteindre pour définir cette place qui est la sienne, à savoir permettre au désir du sujet, justement, de se réaliser comme désir de l'autre. En cela, on est loin de la position symétrique transfert et contre-transfert. Et Dominique Olvoud nous rappelait cet aphorisme de Lacan, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Alors, Dominique Olvoud, finalement, nous a rappelé les trois métaphores de l'amour présentes dans ces chapitres qu'il a retracées. Au fond, la façon qui était la première, la conception de Freud, qui était de dire que la métaphore freudienne de l'amour est vue en termes de pouvoir, en termes de dissymétrie, et que l'amour s'est tombé sous la coupe de l'autre. Et donc, l'objet d'amour, dit Freud, consume le moi. Le sujet est guidé dans la vie par ses idéaux, ses passions, par ses idéaux et ses passions. Et dans l'amour, ça s'inverse au fond. Donc, il avait notamment mis au tableau, si vous vous souvenez, que finalement, avant d'être amoureux, le sujet donc était guidé par ses idéaux, et que ça s'inverse dans la suite. L'amour prend le dessus, et on est tout à fait sous la coupe de l'autre, et les idéaux qu'on avait, finalement, on les laisse de côté. Alors, dans la métaphore de l'amour évoquée par Lacan, on est plutôt dans la dialectique de l'amant et de l'être aimé. C'est-à-dire que l'être aimé, il a toutes les qualités, et finalement, on pourrait dire aussi qu'il domine l'amant, et que pour devenir finalement amant, il faut accepter de perdre quelque chose, c'est-à-dire il faut accepter d'avoir donc l'amant et l'être aimé, donc le dernier, l'être aimé a toutes les qualités, et au temps suivant, donc dans la métaphore de l'amour, il faut que ça se renverse, c'est-à-dire que celui qui a toutes les qualités accepte d'avoir un manque et de manifester un manque, et donc de pouvoir manifester un désir également à travers ce manque. Et c'est ce que Lacan appelle le miracle de l'amour, et c'est un paradoxe, c'est pour ça qu'il parle de miracle, puisque celui qui a tout doit accepter de se décompléter. Alors ces deux façons de voir la métaphore de l'amour, celle de Freud et celle de Lacan, c'est pas encore ce qui se passe exactement dans le transfert. Donc, au niveau de la position analytique dans le transfert, tout comme Lacan l'a indiqué, Socrate incarnant finalement cette métaphore, il s'agit de ne pas répondre à cette demande d'amour. Et le fait de ne pas répondre, c'est au fond ce que Dominique Kollwuth nous présentait comme le miracle du transfert, en reprenant au fond la position de Socrate, qui au plus il refuse à répondre à Alcibiade qui lui demande au fond de dire que voilà, il l'aime, au plus Socrate s'y refuse, au plus il apparaît comme consistant. Et comme consistant et comme contenant quelque chose de précieux, ce qu'on avait pointé sous le terme d'agalma, les merveilles cachées de Socrate finalement. Et donc, puisqu'il se refuse à entrer dans le jeu de l'amour, Socrate, eh bien, Alcibiade lui suppose qu'il doit en savoir un bout sur l'amour. Et plus il devient ce sujet supposé savoir de l'amour, plus finalement Alcibiade l'aime. Mais d'un autre côté, c'est justement parce que Socrate sait que lui, il n'aime pas. Et donc, au fond, cette position de Socrate par rapport à Alcibiade indique ce qu'il en est de la position de l'analyste dans la cure, de surtout ne pas répondre à l'amour par l'amour et de ne pas se laisser identifier à la place, si je peux dire, ne pas se laisser identifier par un signifiant et de rester une énigme pour l'autre, c'est-à-dire l'autre analysant. Et finalement, Dominique Kollwuth avait conclu sur ce point. Alors aujourd'hui, peut-être Cathy Langelet en dira un mot. Avant de la présenter, je vous dis juste que j'ai reçu d'une collègue aux journées de l'ECF qui avait lieu ce week-end à Paris 5 exemplaires de la revue ici de la girafe, qui en fait, la petite girafe, pardon, qui en fait est la revue du réseau Cereda. Le réseau Cereda s'occupant de la petite enfance, mais plutôt hors institution. Et c'est une revue qui s'intitule ici donc Psychanalyse avec les enfants, pas sans réponse, et qui est en vente au prix de 14 euros. Pour ceux que ça intéresserait, j'en ai 5 exemplaires. Et j'ai aussi, ça vous pouvez les emporter, une petite brochure qui présente les 30e journées d'études du Cereda, qui auront lieu sous le titre « L'inconscient sort de la bouche des enfants » et qui aura lieu le samedi 29 mai 2010. Donc pour ceux qui veulent avoir les informations, j'ai ici quelques brochures. Alors aujourd'hui, je vous présente Cathy Langelet, qui va nous parler du transfert et contre-transfert, les séances 12 et 13 du séminaire que nous parcourons cette année. Alors Cathy Langelet est psychanalyste à Charleroi et à Bruxelles. Elle est membre de l'ACF, de l'École de la Cause également, et elle est directrice du CRIPSA à Charleroi. CRIPSA qui au fond reçoit des adultes et des enfants en consultation et en même temps parallèlement, dans le même lieu parallèlement au CRIPSA, vous avez ouvert un CPCT adolescent. Le CPCT est un lieu où on peut venir en consultation d'une façon gratuite pour un nombre de séances déterminées. Et la particularité du CPCT de Charleroi est qu'il s'adresse aux adolescents.
Donc je voulais préciser que CRIPSA, plus qu'un lieu de consultation, est surtout un lieu de formation, d'organisation de formation qui est lié à la section clinique de Bruxelles, comme les antennes de Mons, Namur et Liège. Mais de manière un peu différente, puisque c'est sur c'est pas sur un modèle d'organisation d'une section clinique à Charleroi, mais c'est sur ce sont des petites formations de 3 journées sur un thème précis et qui sont ouvertes largement au public qui le souhaite. Ce sont des formations qui s'adressent bien sûr ce sont des formations cliniques qui s'adressent plutôt à des gens qui travaillent dans la clinique. Voilà, alors je voulais vous dire au fond que j'ai passé mon week-end, comme certains d'entre vous d'ailleurs, à Paris, et pour un congrès exceptionnel de l'École de la cause freudienne, exceptionnel parce qu'il a été tout à fait différent de tous les autres que nous avons vécu jusque-là. Il a été très vivant, très animé, très joyeux. Et au fond, j'espère pouvoir, dans mon exposé aujourd'hui, partager un peu cette joie-là, ce vivant-là avec vous. Donc, ça dit aussi un petit peu la difficulté que ça m'a fait de préparer pour aujourd'hui cette conférence. Mais voilà, c'est une difficulté, en même temps ça m'a apporté aussi des idées, donc je vais m'en servir. Donc j'avais commencé par choisir un style d'exposé un peu différent de celui que j'avais choisi de faire les deux précédentes fois où je suis venue, où Anne et Philippe avaient invité les deux années précédentes, où là j'avais choisi pour commenter le séminaire de prendre un extrait et de le développer sans m'en tenir nécessairement au texte des chapitres que je devais commenter. Cette fois-ci, je me suis plus attachée au texte des deux chapitres parce que, au fond, j'ai l'idée que ce sont deux chapitres charnières dans ce séminaire. Que ce sont deux chapitres vraiment importants. Et puisqu'il s'agit ici d'une lecture pas à pas, une lecture qui vous accompagne aussi dans votre lecture, il me semblait nécessaire de cette fois-ci faire l'exercice un peu autrement. Voilà. Et donc, Lacan, après avoir longuement commenté le banquet de Platon, en retire de ce banquet donc un apport essentiel pour l'élaboration de sa doctrine sur le transfert. Cet apport, c'est le fameux agalma, qu'il appelle aussi A, simplement, par donc la seule voyelle A. Ce qui jusque-là était ce A, c'était celui de l'image de l'autre dans le miroir, donc I entre parenthèses de A. Ce I de A prend maintenant, donc ce petit A prend maintenant une autre valeur que Lacan va développer et qui l'amènera ensuite, plus tard, à formaliser dans les séminaires suivants, les séminaires 10 et 11 surtout, l'objet petit A. Étant donné, ça je l'ai déjà dit, que j'avais opté pour la formule du commentaire. Donc, deux textes de Jacques Alain Miller m'ont servi à construire ce commentaire. Il s'agit d'un petit texte intitulé CST, entendez clinique sous transfert en abrégé, qui est paru dans un très ancien numéro d'Ornicar, un numéro 29, quasi introuvable aujourd'hui. C'est un texte de 1982 dans lequel Miller défend un retour à la clinique, simplement, puisqu'à l'époque on avait l'idée que la clinique et la psychanalyse ça n'allait pas ensemble, et aussi défend l'idée de la passe à l'entrée. C'est-à-dire, la passe à l'entrée, c'est au fond l'étude clinique des entrées en analyse. Alors, il termine ce texte en proposant une formule devenue courante depuis chez les analystes de l'école Lacoste freudienne, quand il s'agit de cerner les effets, justement les effets cliniques de l'entrée en analyse. Il propose la formule de la précipitation du symptôme. Et le deuxième texte qui m'a éclairé, c'est un texte construit à partir de son cours de l'année académique 2001-2002 et qui est intitulé « Contre-transfert et intersubjectivité ». Texte lui paru dans la revue de la cause freudienne numéro 53. Dans ce texte, Miller y fait le parcours historique détaillé avec commentaire des textes clés de la théorie justement du contre-transfert de 1949 à aujourd'hui. Je prendrai aussi quelques références littéraires actuelles pour animer un peu mon propos. Alors, l'agalma, l'amour et le désir. Ce sont les trois termes développés dans ce chapitre intitulé « Le transfert au présent ». Ce titre joue sur une équivoque, « Le transfert au présent ». On peut y entendre à la fois « Le transfert » comme « La présence du passé ». On peut également y déceler la signification « Le transfert aujourd'hui ». Et j'ajouterai qu'on peut encore y entendre l'importance de la présence de l'analyste en chair. Lacan s'explique sur le choix du banquet de Platon pour ouvrir son séminaire. Il a depuis les premiers cours de cette année-là l'idée que Platon cache quelque chose dans son texte. Et il s'en entretient d'ailleurs avec Kojève, qui n'a pas la réponse, mais a l'intuition que la clé est à chercher dans les raisons du hoquet d'Aristophane. Ce que Lacan y trouve, c'est un objet donc tout à fait particulier, un objet précieux, qui a même donné un adjectif en lacanien. Il s'agit donc de l'agalma et de son adjectif agalmatique. Dans le banquet, Lacan a trouvé cet objet caché à l'intérieur et qui est radical pour le ressort de l'amour. L'agalma est donc un objet caché qui provoque l'amour. Et à partir de là, je vais me mettre à écrire des petites choses au tableau. Parce que ce n'est pas facile, c'est un texte assez serré et donc je pense que ça m'aidera et ça vous aidera aussi un peu à avancer. Donc l'agalma, cet objet caché, provoque l'amour. Autrement dit, l'autre, en l'occurrence dans le banquet Socrate, recèle un objet caché à l'intérieur qui provoque l'amour. Et donc ici, on peut écrire, ça c'est un peu à ma sauce, autrement, le grand A, avec à l'intérieur de lui, l'agalma, qui provoque donc l'amour. Donc, ce n'est pas l'autre du trésor des signifiants qui provoque l'amour, c'est l'autre en tant qu'il recèle cet objet agalmatique. Ce n'est donc pas le même autre que le grand autre dont il est question à d'autres endroits. C'est un grand autre incarné, celui-là. Et deuxièmement, cet objet précieux, cet agalma, il fait encore autre chose, donc il révèle la structure fondamentale du désir. Donc, dans la mesure où c'est la rencontre de l'autre en tant qu'image dans le miroir, en tant qu'autre moi-même, l'autre pareil en somme, avec cet objet qu'est l'agalma, c'est cette rencontre qui constitue un autre autre, un autre différent, un autre avec grand A justement. Donc, ici, non, oui, pour l'instant je vais le monter. C'est la rencontre donc de I de A, l'autre semblable, l'image de l'autre, avec l'agalma, qui produit le grand autre. partir de là, on peut apercevoir une disjonction. C'est que le grand autre, ainsi constitué par l'objet agalmatique qu'il recèle, provoque deux effets différents. Il provoque donc l'amour, ou plus exactement la demande d'amour, et il provoque le désir. Alors, je continue mes petites écritures. Oups, voilà le tableau qui remonte. Donc ce grand autre constitué de l'objet agalmatique provoque l'amour et le désir, mais amour et désir sont donc deux choses différentes. Et l'amour, c'est ça, c'est la demande, tandis que le désir, c'est petit d qui inscrit sa différence. Donc amour et désir sont donc différents, et le psychanalyste saura, dans la direction de la cure, ne pas en remettre sur l'amour, tout en soutenant le désir. C'est d'ailleurs en ne répondant pas à la demande que le désir pourra se développer. Je cite Lacan, page 206. Dans la mesure où quelque chose se présente comme revalorisant la sorte de glissement infini, l'élément dissolutif qu'apporte par elle-même dans le sujet la fragmentation signifiante, qu'il prend valeur d'objet privilégié, qui arrête ce glissement infini. Donc quelque chose se présente comme revalorisant le glissement infini de la chaîne signifiante. Alors ici, pour comprendre, il me semble qu'on a besoin du graphe du désir. Il n'est pas représenté, mais il est là, en filigrane, derrière les phrases que Lacan prononce. Alors, je vais l'utiliser. Cette fois. Donc, le graphe du désir, qui souvent donc fait peur, parce qu'il a l'air très compliqué. En fait, il faut se dire que c'est comme tout schéma de Lacan, c'est un outil de travail. C'est quelque chose qui lui sert à simplifier. Même si ça vous apparaît dans un premier temps plus compliqué, en fait c'est une simplification. Il faut se rendre compte que c'est un truc qui a été construit au départ dans le séminaire Les formations de l'inconscient. Donc pour le comprendre, il est aussi utile de retourner là, mais je vais essayer de vous le restituer de manière un peu simple aujourd'hui. Alors, donc, il y a d'un côté... Non, on va prendre d'abord la chaîne signifiante. Ça, c'est facile, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a la métonymie de la chaîne signifiante qui passe comme ça. S1, S2, etc., etc. Bla, 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 quoi. Et puis, à partir de ce point-là, ici, du delta... qui est aussi au fond une flèche, le départ d'une flèche, il y en a une autre, donc, qui passe comme ceci. Ce point-là, c'est au fond le point du « ça parle, ça pousse », c'est la poussée du vouloir dire. Et cette poussée du vouloir dire rencontre d'abord le grand A, là, en tant que trésor du signifiant. Et dans l'après-coup, se dégage le signifié de l'autre. Je m'explique. Ou plutôt, je m'expliquerai après, un peu plus tard. Mais je vous assure, j'y reviendrai en détail. Alors, ici déjà, on voit que c'est cette rencontre d'un ça veut dire quelque chose et rencontre le grand A qui permet quelque chose s'inscrive dans le blabla de la chaîne signifiante. Ça, pour l'instant, c'est juste pour vous faire apercevoir ça. Le côté où quelque chose arrête le glissement infini. Alors, quelque chose ou quelqu'un se présente, au fond, j'ai pensé pour vous en donner un exemple, un livre que je viens de terminer de lire, qui s'appelle « L'homme de 5 heures » de Gilles Heuret. C'est un roman neuf, donc de la rentrée de septembre, et que j'ai découvert. Je ne connaissais pas cet auteur. Je ne le connaissais pas d'ailleurs parce que c'est son premier livre, mais par ailleurs il est journaliste. Et il a ceci donc de particulier, ce nouveau roman, qu'il est écrit dans un style très obsessionnel, sous un amas de références érudites, prêtes à étouffer le lecteur. Le héros du livre, mais est-il un héros, rencontre, après une journée passée en bibliothèque, un homme d'allure un peu fantomatique, et qui dit s'appeler Paul Valéry. Un revenant, donc. Cet homme vient à sa rencontre tous les jours à 5 heures et semble lui-même obsédé par le thème des 5 heures dans la littérature. Puis il commence à s'éclipser. Parfois il ne vient pas. Parfois il ne vient pas plusieurs jours de suite avant ensuite de réapparaître. Et voici l'effet qu'il fait donc sur le sujet, sur l'anti-héros du roman. Paul, donc, en l'occurrence, ceci de particulier, c'est donc que les deux se prénomment Paul. Paul, pour se mettre en paix avec lui-même, car on ne peut passer son temps à se mortifier, rassembla son énergie et envisagea que Monsieur V, donc, entendez Paul Valéry, Monsieur V, c'est ainsi qu'il l'a surnommé, ce drôle de bonhomme qui vient le voir tous les jours à 5 heures. Il envisagea que Monsieur V pourrait sans doute lui offrir l'occasion d'une rédemption, sinon d'une résurrection. Terme qu'il n'employait pourtant qu'avec parcimonie. Ce personnage improbable, par bien des aspects, lui permettrait peut-être de reprendre du poil de la bête. Un soir, rasséréné par cette pensée, il se sentit presque revigoré, à défaut d'être totalement heureux. Et saisi d'une inhabituelle frénésie téléphonique, appela coup sur coup 5 amis à qui il n'avait pas donné de nouvelles depuis des mois. 2 heures après, épuisé, il se félicita d'une telle audace et se persuada que vivre dangereusement était vital pour le bon équilibre d'une existence. Une fois au lit, il songea à des seins moelleux, à des fesses mutines et à cette façon qu'elle avait, quand elle se retournait, d'embarquer la couette avec elle en la coinçant entre ses jambes, comme si elle escaladait une falaise horizontale. En fermant les yeux, il vit encore le triangle sombre de sa toison quand le noir de la chambre n'était pas tout à fait noir. Il y pensait tout seul et se promit que jamais, bien évidemment, il n'évoquerait de telles images intimes devant l'exalté du cul de tout à l'heure. Entendez Monsieur V. Donc. Au bout d'une semaine, n'ayant reçu aucune missive, il commença à s'inquiéter, se demandant où diable avait pu s'évanouir son nouvel ami, ce qu'il faisait, avec qui, s'il ne lui était rien arrivé de fâcheux, s'il n'avait pas été victime d'un accident ou d'une agression, après avoir apostrophé un passant au nerf à fleur de peau. Il suffit de peu de choses pour prendre un coup de couteau, etc., etc. Donc Paul, l'anti-héros du roman, a donc rencontré quelque chose ou quelqu'un. Qui lui a fait cet effet de revaloriser donc la sorte de glissement infini de la chaîne signifiante. Et ce quelqu'un a provoqué du désir. On le voit en train de se remettre un peu à vivre. Se remet à téléphoner à ses amis, à penser à une femme alors qu'il vit dans les livres. Depuis si longtemps. Alors Lacan poursuit en explicitant que ce qui se présente comme irruption et revalorisation dans la chaîne signifiante prend valeur d'objet privilégié qui arrête ce glissement infini. C'est aussi une manière de dire l'acte analytique introduit par l'analyste en début de cure. L'acte analytique qui est mis en œuvre par l'analyste au début de la cure, c'est aussi quelque chose qui fait irruption et revalorise la chaîne signifiante. Dans le superbe film réalisé par Gérard Miller pour France 3 et intitulé « La première séance », que vous pourrez découvrir début de l'année prochaine, à défaut de l'avoir vu hier aux journées de l'école de la cause freudienne à Paris, de nombreux analysants témoignent de ce qui a fait acte et les a introduits dans l'espace analytique, dans les coulisses de leur théâtre subjectif. Pour l'un, c'était simplement l'aspect tout à fait hétéroclite du personnage de l'analyste. Pour l'autre, c'est un mot, une phrase, « je ne vous juge pas » qui a fait acte, etc., etc. À partir de ce moment, quand un objet peut prendre ainsi par rapport au sujet cette valeur essentielle qui constitue le fantasme fondamental, le sujet lui-même s'y reconnaît comme fixé. Dans cette fonction privilégiée, nous l'appelons A. Le revoici donc le A. Encore un peu différent. Ici, c'est S barré, poinçon de A. C'est la formule du fantasme. Matrice de l'apport, du rapport, pardon, du sujet à l'autre. Ça, c'est ce qui indique le rapport. Donc, le sujet et l'autre, son rapport à l'autre. C'est la matrice du fantasme. Le rapport à l'autre du sujet est toujours un fantasme. Sinon, en fait, il n'y a pas de rapport. Et c'est dans la mesure où le sujet s'identifie au fantasme fondamental que le désir comme tel prend consistance et peut être désigné, c'est-à-dire qu'il se pose dans le sujet comme désir de l'autre, grand autre. Et là, on peut écrire ceci, le désir de l'autre. C'est aussi cette réponse-là. Signification. Alors, revenons donc au grave du désir, puisque pour essayer de s'y retrouver dans toutes ces phrases qui à la fois sont simples et compliquées, je me suis dit qu'il valait mieux reprendre le grave du désir. Allons-y. Là, je voulais éboucher. Je vais une petite éponge, un petit mouchoir, quelque chose. Jacques-Alain Miller fait remarquer dans un texte très précieux qui s'intitule « Les paradigmes de la jouissance » et qui est paru dans une revue de la cause freudienne aussi, très précieux parce que c'est un peu le texte qui fait la topographie de l'enseignement de Lacan, qui nous donne des repères essentiels pour s'y retrouver dans cet enseignement. Donc, Jacques-Alain Miller fait remarquer que le graphe du désir, c'est le moment où Lacan cherche à significantiser une série d'éléments qu'il avait rejetés dans l'imaginaire. Une série d'éléments comme la pulsion, le fantasme, etc. Et tout ce qui excède et qu'il n'appelle pas encore à l'époque jouissance. Voilà. Deuxième point, c'est que sa construction à ce graphe commence tôt, c'est-à-dire dans le séminaire 5, comme je vous le disais tout à l'heure. Et que c'est une construction en deux étapes. Alors, j'aurais besoin de ma chaise pour déposer les... Donc, première étape, c'est celle que je vous ai dessinée là, que je vais refaire, c'est l'étape du sujet, en quelque sorte. Et puis, deuxième étape, celle de l'autre. Mais donc, Lacan le construit à deux étages. L'un sur l'autre. C'est le redoublement. Au départ, c'est le redoublement des deux étapes l'une sur l'autre. Et cela devient ensuite le sujet et l'autre scène. On a un peu l'habitude de dire, c'est une manière de voir ça, que le passage, dans l'entrée dans la cure, c'est le passage au deuxième étage du graphe du désir. C'est quand on, quelque part, on découvre l'autre scène. Quand on va au-delà de ce premier étage. Premier étage, donc, où donc vous avez en effet l'axe du signifiant tel que je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Comme donc élément du langage qui se déroule diachroniquement, comme dans le sens du déroulement de la phrase. Voilà. Alors, je m'y perds un peu moi-même. Je vais m'y retrouver, ne vous inquiétez pas. Pourtant, je vous assure, c'est très clair. Alors, non, mais il y a plusieurs éléments. Donc voilà, les deux étages sont construits. Il y a un autre élément qui peut aider à comprendre le graphe, c'est qu'il est coupé, on peut le couper transversalement et mettre de ce côté du graphe les réponses et de ce côté les questions. Vous allez voir. Ça va s'éclairer. Donc, je reviens à l'axe du signifiant. Et ici, au fond, c'est l'axe de la parole. Le ça veut dire, c'est l'axe du signifiant d'un côté et le vouloir dire de l'autre. Évidemment, j'ai mis les flèches dans l'autre sens. Je vais arriver à vous égarer finalement, alors que mon souhait est de vous éclairer. Donc on peut conclure que le sujet est lui-même un pur vouloir dire, qu'il est identifié par son dit. Ça c'est l'axe rétroactif. La signification, la vérité est un effet d'après-coup. Alors, simplement, si on reprend la première étape du graphe et les formations de l'inconscient, vous avez l'exemple de concupiscent. Concupiscent au fond, vous ne comprenez la signification du mot concupiscent qu'à condition de l'entendre jusqu'au bout. Hein ? S'il est coupé, vous pouvez n'y entendre qu'une injure. Hein ? Et donc, la signification ne vient qu'après coup. Alors, delta, ici, le point où ça pousse à vouloir dire, croche un signifiant dans l'autre, invente un signifiant. En le crochant, en l'accrochant dans le trésor du signifiant, il l'invente aussi, il le fait sien. Bien sûr, il le prend dans un lieu commun, mais il devient sien du côté du signifié et invente donc une nouvelle signification, puisque nous avons chacun notre propre langue. Alors, le troisième mouvement dans le mot d'esprit est aussi de le faire reconnaître dans l'autre. Par un tiers. Alors, il y a aussi un court-circuit au niveau du premier niveau du graphe. C'est le court-circuit imaginaire entre l'image de l'autre et le moi. Ici, ça reste encore assez simple, puisque, je le remets là, c'est un peu le résumé de l'axe imaginaire qu'on trouve aussi dans le schéma L. C'est l'autre et moi, moi et l'autre. La réponse, donc, c'est moi. Si on le prend du côté de la question, c'est qui suis-je, mais au sens de qui suis-je pour dans ma représentation. Alors, c'est aussi ce premier étage, donc l'étage de la plainte et du symptôme. Celui dans lequel on peut tourner en rond quand on commence une analyse pour se plaindre de ce qui ne va pas. Le deuxième étage, lui, est un peu différent. Donc pour se plaindre de ce qui ne va pas, en effet, il faut passer par le trésor des signifiants, l'autre, le langage, pour expliquer ce qui ne va pas et produire donc des significations. Ça, c'est quand on est toujours dans le symptôme et la plainte. Donc le deuxième étage est construit à l'identique du premier. Et il faut comprendre donc que c'est aussi ce graphe en quelque sorte, quelque chose qui est construit à partir de l'idée de la demande d'un objet du besoin. Cette première flèche qui part de delta, de là c'est la même chose, qui part d'un point qui n'est au fond pas encore un sujet. Le sujet, c'est l'ensemble, c'est la construction de cet ensemble-là. Le delta, c'est le point du ça veut dire, ça veut parler, ça veut demander quelque chose. C'est aussi, en quelque sorte, la demande du nourrisson. Et du fait de devoir le demander, de devoir demander ce dont il a besoin, de devoir en passer par la demande, eh bien, une part de l'objet échappe et continue à être cherchée à l'étage au-dessus. C'est parce que il doit en passer par la demande que quelque chose n'est jamais satisfait dans cette demande, comme dans la plainte et le symptôme. Quelque chose n'est jamais satisfait et continue au-delà à être demandé. À l'étage au-dessus, quelque chose, donc du fait du langage, a échappé et se joue dans un au-delà de la demande. Cette demande qui laisse, avec une part inaccessible de l'objet, cette demande à se poursuivre au-delà, rencontre une réponse dans le style d'un kevoy, dans le style d'un que me veut-il ? Que me veut-il cet autre que, à qui je m'adresse pour demander, puisque au fond, qu'il me réponde ou qu'il ne me réponde pas, de toute façon, il ne me donne pas tout à fait ce que je demande. Au deuxième étage, donc, le sujet continue à poser sa demande, mais que l'autre réponde ou pas, donc cela provoque cette question du désir de l'autre, cette angoisse aussi, du qu'est-ce qu'il me veut, puisque cela ne sera jamais ça. À cette place du kevoy, c'est-à-dire de l'angoisse, le sujet organise comme réponse à cela un fantasme. Donc, ici, il est passé par la pulsion. C'est-à-dire ce reste, ce reste de sa demande qui n'est pas satisfait. Il y a donc cette angoisse que Lacan a appelée kevoy, cette angoisse qui est là et qui va trouver l'organisation de sa réponse dans un fantasme. Ce fameux S barré poinçon de A, formule du fantasme, c'est-à-dire organisation par le sujet de qu'est-ce que me veut l'autre ? Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas tout à fait ce que je lui demande ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas tout à fait ça ? Et que me veut-il donc ? Et sur ces figures, il organise aussi son désir, comme à l'étage précédent, et il organise son image à l'image de l'autre. Donc son fantasme, son désir et sa réponse, son moi. Ça, ce sont les trois réponses qu'il organise dans le fil de la flèche. Alors, de la même façon, ce désir, donc, c'est le désir de l'autre. Ça laisse le désir toujours insatisfait. C'est le désir comme déchet du lien à l'autre, mais qui est le plus important, cependant, le plus éminent. Cela implique qu'il n'y a pas d'autre qui répond. Et de l'autre côté, le sujet pris est pris dans toutes les formes de ses demandes, orales, anales, etc. Dans toutes ses demandes de l'objet qu'il n'y a pas. Mais cet objet est perdu parce que il y a à le demander, parce que l'humain parle. Au fond, la formule de la pulsion, S barré poinçon de D, c'est le rapport donc du sujet à la demande. C'est la série des demandes orales, anales, etc. Voilà pour le retour au grave du désir. Et je poursuis le fil du chapitre 12. Lacan ajoute ensuite que l'autre, le grand autre, est défini pour nous comme lieu de la parole, lieu tiers qui existe toujours dans les rapports à l'autre, dès qu'il y a articulation signifiante. Pour parler à un autre, il faut en passer par le langage. Le langage fait donc tiers entre nous et l'autre. C'est un lieu, donc, dit Lacan. Au fond, Marguerite Duras, elle, parlait aussi d'un lieu, quand elle parlait du lieu de l'écriture dans lequel elle tombait, lorsqu'elle se mettait à l'acte d'écrire, lieu dans lequel les mots étaient pour elle chargés, presque radioactifs. C'est évidemment différent, mais en même temps, on peut entendre quelque chose de pourquoi utiliser ce mot-là, ce lieu. Mais revenons à Lacan. Cet autre est à la fois nécessité et nécessaire comme lieu, mais en même temps sans cesse soumis à la question de ce qui le garantit lui-même. Cet autre qui est perpétuellement évanouissant, dit Lacan. Et là, il introduit la barre sur l'autre, quand il dit ça. Et qui, de ce fait, nous met dans une position elle-même perpétuellement évanouissante, qui, de ce fait, introduit la barre sur le S. C'est parce que l'autre est évanouissant, parce qu'il manque d'un signifiant, pas d'un seul d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas être garanti, qu'il y a aussi une barre sur le sujet, qui lui-même donc se trouve dès lors dans une position perpétuellement évanouissante. Lacan note donc qu'il y a une difficulté à s'apercevoir du rapport qui lie l'autre à l'amour et au désir. Comment cela se fait-il que l'autre auquel est adressée la demande d'amour provoque aussi le désir ? L'autre dont il est question, alors, n'est plus du tout notre égal. Et c'est pourquoi Lacan l'écrit avec un grand A. C'est un autre différent. Un autre bien humain, ce n'est pas le lieu, le trésor du signifiant, mais c'est un autre qui représente ce lieu, qui en est le représentant, le porteur. À partir de ce moment-là, cet autre n'est plus un sujet non plus. Et donc vous pouvez en conclure qu'il en est bien fini de l'intersubjectivité. Si cet autre-là n'est plus un sujet, on ne peut pas être deux sujets ensemble. Cet autre-là est un objet. Lacan dit « Le commandement épouvantable du Dieu de l'amour est de faire de l'objet qu'il nous désigne quelque chose qui premièrement est un objet et devant quoi nous défaillons. Nous disparaissons comme sujet. Nous disparaissons comme sujet parce que nous-mêmes nous souhaitons devenir objet de l'amour de cet autre-là. Quand cet objet est analyste, il n'a pas à répondre, il n'a pas à faire de nous son objet. Mais au contraire, il a la fonction de sauver notre dignité de sujet, c'est-à-dire de faire de nous autre chose qu'un sujet soumis au glissement infini du signifiant. Dans la deuxième partie de cette 12e leçon, Lacan donc articule le transfert sous trois aspects. Comme automatisme de répétition, à distinguer de la répétition qui vous pourrit l'existence en faisant toujours, par exemple, de mauvais choix dans votre vie. C'est pas la même chose. Le transfert, c'est aussi donc la présence du passé. Et troisièmement, le transfert, c'est maniable par l'interprétation. Alors on découvre que si la parole porte, c'est parce qu'il y a transfert. C'est une expérience très frappante dans les demandes d'analyse. Selon le point duquel vous arrive le patient pour sa première séance, vous pouvez mesurer si ce que vous énoncerez aura une chance de porter ou pas, ou s'il faudra attendre ce transfert, ce lien de confiance, mais aussi de supposition de savoir, hein, que ce lien s'installe pour vous permettre de partir d'ailleurs que de l'autre égal, partenaire dans le miroir. Ce transfert, il faut aussi le supporter, dans les deux sens du terme. Le porter, le supporter, et le supporter... nerveusement, si je puis dire. C'est-à-dire avoir mené son analyse assez loin pour n'avoir plus besoin des oripeaux de son propre moi et pour ne pas se défendre de ce que l'on vous attribue. Je pense notamment au témoignage d'Anne Béraud, ce week-end à Paris, qui disait que, au fond, la position silencieuse de son premier analyste n'avait pas permis une entrée en analyse, mais qui ajoutait ensuite qu'en fait cet analyste avait fait pas mal d'erreurs, et notamment qu'un jour où elle lui attribuait, donc elle lui disait que la coupure de la séance précédente l'avait marqué, l'analyste lui a répondu: ce n'est pas moi, c'est l'horloge qui a coupé la séance. Ce n'est donc pas le silence de l'analyste qui a fait obstacle à l'entrée dans la cure d'Anne Béraud, mais bien au contraire, cet énoncé, et peut-être d'autres encore, qui indique son refus de supporter, le refus de cette analyse de supporter la place de l'autre. Il n'y était pas, non ? Il y a aussi des analystes qui supportent mal le transfert négatif, par exemple. Ils supportent mal qu'on ne les aime pas et font alors obstacle à la possibilité d'une fin de l'analyse. Lacan dit, dans les conditions normales de l'analyse, dans les névroses, le transfert est interprété sur la base et avec l'instrument du transfert lui-même. Il ne pourra donc se faire que ce ne soit pas de la position que lui donne le transfert que l'analyste analyse, interprète et intervienne. Autrement dit, ce n'est pas parce que la séance semble levée que l'analyste ne parlerait plus de sa place d'analyste. De même, hors séance, à l'extérieur de son cabinet, l'analyste reste toujours porteur du transfert et ne peut être entendu que de ce point-là, pour l'analysant. Pas non plus d'intervention possible à un deuxième niveau, duquel l'analyste sorti de derrière son divan pourrait parler au moins raisonnable de l'analysant pour passer avec lui une sorte de pacte thérapeutique. Cela veut dire aussi que l'analyste ne doit pas perdre de vue qu'il y a toujours une marge irréductible de suggestion due au transfert et à laquelle Freud a toujours été extrêmement sensible, à cause de laquelle d'ailleurs il a décidé de renoncer à l'hypnose et à l'imposition des mains aussi. Je rappelle qu'il y a une époque où il mettait les mains sur la tête de ses patients pour provoquer le retour de souvenirs. Donc la leçon freudienne et le rappel que nous fait ici Lacan, c'est qu'il y a une marge irréductible de suggestion, grâce ou par la force des choses du transfert, à laquelle nous devons rester sensibles et vigilants. Alors la réalité du transfert, c'est la présence du passé en acte, c'est une reproduction. Le sujet nous signifie par sa conduite quelque chose. Il répète une signification. Le sujet fabrique, construit ce que l'on peut appeler une fiction. Celle, par exemple, de se faire jeter, comme dans le témoignage d'Anne Béraud. Par ailleurs, il est impossible d'éliminer du phénomène de transfert le fait qu'il se manifeste dans le rapport de quelqu'un à qui l'on parle. Ce fait est constitutif. Et là, je n'ai malheureusement pas retrouvé pour vous aujourd'hui, mais je l'ai bien en tête, c'est un livre d'Atik Raimi qui exemplifie magnifiquement bien ça. Donc Atik Raimi, qui a écrit Singh et Sabour, très petit livre, qui a reçu le prix Goncourt l'année dernière, et qui met en scène une femme dont le mari semble mort, mais pas vraiment encore, mais il est complètement inerte chez lui. En Afghanistan, si je me souviens bien, bon, peu importe, dans un pays musulman rigide, et cette femme commence à parler à ce mari inerte, là par terre, alors qu'elle ne lui a jamais parlé. Et tout, elle se met à lui raconter plein de choses, et tous les jours à lui parler, et elle se met à l'aimer. Jusque-là, elle ne l'avait jamais aimé. Mais du fait de lui parler qu'il ne réponde pas, quelque chose de l'amour se met en route. Et bien au-delà de beaucoup d'autres choses, mais ce ne sont pas les dits de l'analyste qui font obstacle. C'est pas le silence, ce sont les dits de l'analyste qui font obstacle. On voit là que dans ce que Atik Raimi met en scène pour tout à fait autre chose, on voit que le silence le plus pur, si l'analysant peut le supporter, ce qui n'est pas toujours le cas, faut pouvoir mesurer ça, mais si l'analysant peut le supporter, c'est ce qu'il y a de plus juste comme position analytique. Heureusement, le plus souvent, on ne peut pas se le permettre. Il faut quand même dire des choses. Alors, la troisième partie de ce chapitre 12 du séminaire ouvre la question du désir de l'autre, et donc des deux désirs en jeu dans une analyse. Le désir du sujet analysant et le désir du psychanalyste. Lacan situe que ce qui provoque le désir d'Alcibiade pour Socrate, c'est que Socrate est habité par un autre désir dont Alcibiade ne sait rien. C'est à cause de ce désir qui anime Socrate qu'Alcibiade est possédé par un amour de transfert. Ce qu'est l'analyste pour l'analyser, cela ne peut se concevoir sans situer correctement la position que l'analyste lui-même occupe par rapport au désir constitutif de l'analyse. Qui est ce avec quoi s'y engage le sujet? À savoir, qu'est-ce qu'il veut, ce fameux, donc, Kevoy. Donc, l'analysant, lui, a affaire au désir de l'autre, sous les formes du désir de l'analyste, alors que l'analyste a affaire au désir de l'autre aussi, mais en rapport à son désir d'école, disons à son désir par rapport à la psychanalyse. Ce n'est donc pas symétrique. Si l'analysant a du transfert pour l'analyste, c'est parce qu'il perçoit chez lui un désir autre. Confère donc un journaliste, si je me souviens bien, c'était Fogiel, qui témoignait de sa première séance chez un analyste, chez qui traînaient des livres et des papiers partout. Un désir autre donc que celui pour ses patients. Il y a donc trois termes dans cette histoire de transfert, et non pas deux fois deux, comme le laisse croire la théorie du contre-transfert. Dans le chapitre suivant, le chapitre donc 13, intitulé « Critique du contre-transfert », Lacan avance méthodiquement ses critiques aux collègues qui lui étaient contemporains et qui étaient eux-mêmes membres de la même école à l'époque, l'IPA, dont Lacan n'avait pas encore été excommunié, selon l'expression qu'il utilisera dans le séminaire 11, séminaire de l'excommunication. Lacan rappelle que très tôt, Freud a considéré que tout ce qui chez l'analyste représente son inconscient en tant que non analysé est nocif pour sa fonction et son opération d'analyste. C'est pourquoi on considère qu'il y a nécessité pour l'analyste d'une analyse didactique poussée fort loin. Lacan compare la psychanalyse à une partie de bridge où l'analyste doit aider le sujet à trouver ce qu'il y a dans le jeu de son partenaire. Mais l'analyste, lui, ne doit pas avoir en principe à se compliquer la vie avec un partenaire. Pour cette raison, il est dit que le I de A de l'analyste doit se comporter comme un mort. Le I de A de l'analyste, au fond, c'est son image du moi. Mais aussi toute sa personnalité, au fond, c'est ce qu'il est. Tout ça, ça doit se comporter comme un mort. Non seulement donc, il faut faire taire son inconscient par l'analyse la plus longue possible, mais il faut aussi faire taire son image, la représentation que l'on a de soi, qui ne peut qu'entraver les projections transférentielles nécessaires au décours de l'analyse. Si vous tenez à l'idée que vous êtes gentil, vous aurez du mal à supporter qu'on vous trouve cruel. Si vous tenez à votre neutralité inodore, à votre transparence, vous aurez du mal à assumer l'acte de la coupure de la séance. Pour en revenir donc aux deux exemples précédents. Nous ne sommes jamais égaux à notre fonction, souligne Lacan. Lacan refuse le traitement de sa faute par l'analyste au sein de la cure de son analysant. Mais pour le reconnaître, il faut que l'analyste sache que le critère de sa position correcte n'est pas la compréhension. Au contraire, il doit toujours mettre en doute ce qu'il comprend. Ce qu'il cherche à atteindre, c'est ce qu'il ne comprend pas. Il sait ce que c'est que le désir, mais il ne sait pas ce que le sujet désire. C'est-à-dire qu'il est en position d'en avoir. Il ne sait pas ce que le sujet désire, c'est-à-dire que lui-même est en position d'en avoir en lui de ce désir, l'objet. Pour vous transmettre ce que personnellement j'en comprends de cette position de Lacan, quant au traitement de la faute de l'analyste et à sa non-compréhension radicale, je vous donnerai deux anecdotes et l'enseignement que j'en ai tiré. Premièrement, l'analyste réputé, chez qui j'avais commencé quelques mois plus tôt une nouvelle analyse, ne répond pas lorsque je viens sonner à sa porte pour le dernier rendez-vous qu'il m'a donné avant les vacances d'été. Je l'appelle le lendemain, déterminée à ne pas me plaindre et à obtenir un nouveau rendez-vous. Je balbutie au téléphone. « Hier, je suis venue pour la dernière séance, mais vous n'étiez pas là. » Et j'entends de l'autre côté du fil une voix hurler que j'aurais pu attendre, que je devais savoir qu'il était débordé par la préparation d'un congrès et que je n'avais plus qu'à rappeler en septembre. À ma tentative de le culpabiliser gentiment, d'avoir laissé sur le trottoir égaré la pauvre jeune fille que j'étais, je reçus l'engueulade de ma vie, qui transforma instantanément mon ô combien grand transfert positif en transfert négatif assuré. Je ne ferai en aucun cas la promotion de ce genre d'acte analytique, mais il faut bien avouer que c'est seulement à la grâce de celui-ci que je pus être délogée de ma position de victime, toujours prête à se faire aimer pour sa douleur d'exister. Cet acte n'a été possible que chez un analyste désencombré de sa faute et de sa culpabilité. Dans le monde normal, on imagine mal se faire remonter les bretelles par celui qui lui-même est coupable d'absence ou de retard. Deuxièmement, bien des années plus tard, après deux interprétations majeures, l'une de l'analyste, l'autre du contrôleur, je me retrouve de l'autre côté de ma fiction et je découvre pourquoi depuis des années j'avais tant de mal à trouver la bonne interprétation, à rédiger un texte, à préparer une conférence, parler pendant une heure et demie, un vrai calvaire, à parler d'autres langues ou même à parler lacanien, à prendre la parole et même à poser une question. J'étais affublée d'un surmoi autocorrectif, strict et exigeant, qui ne laissait passer aucune faute, et surtout pas de faute d'accent. Je découvrais que j'en étais affublée parce que, instantanément, il avait disparu. Tout d'un coup, il n'était plus là, et je pouvais faire tout ce qui m'était si difficile en d'autres temps. Cette disparition permit une modification radicale de la pratique analytique. Plus besoin de trouver la juste position, la bonne parole, l'interprétation miraculeuse, etc. Plus besoin de savoir où couper. Il ne fallait pas déjà savoir, mais seulement savoir, ou plutôt entendre. Cela ne veut pas dire qu'on peut tout faire, mais à défaut de faire ou de dire quelque chose que l'édit du patient vous aurait indiqué, vous pouvez alors supporter de faire rien. Ce qui, dans le cas du premier analyste d'Anne Béraud, aurait valu beaucoup plus que toute parole prononcée. Alors, dans son texte « Contre-transfert et intersubjectivité », Jacques-Alain Miller nous suggère de voir le refus du contre-transfert chez Lacan comme un fil rouge de son enseignement. La position freudienne orthodoxe conçoit le contre-transfert comme un obstacle à la cure, obstacle qui doit être réduit par l'analyse de l'analyste ou par son contrôle. L'analyste a d'emblée était défini par Lacan comme celui qui fait taire en lui-même le discours intermédiaire. Chez les freudiens, il y avait des dissensions néanmoins. Il y a ceux qui ont pris le chemin du contre-transfert comme outil principal de la cure, comme voie royale de l'accès à l'inconscient du patient. Et il y a ceux qui s'y sont opposés, dont Lacan, mais aussi Annie Reich, par exemple, freudienne orthodoxe. Annie Reich ne nie pas le phénomène du contre-transfert, mais elle conteste sa surestimation, sa mise à l'avant-plan. Elle trouve que l'analyste peut admettre ses erreurs, ses oublis, peut se décompléter, avouer que l'autre n'est pas infaillible, mais elle s'oppose à ce que l'on accable le patient des affaires privées de l'analyste. Elle considère qu'il s'agit là de l'intrusion d'un matériel étranger à la cure qui encombre la cure et l'opacifie. Annie Reich tient absolument à la neutralité analytique. Annie Reich est aussi pour une position qu'elle dit empathique. Par contre, Lacan, pour lui, contre-transfert et empathie sont à situer dans les impasses du registre imaginaire. Ce qui manque, selon Lacan, dans ces deux conceptions de l'analyse, donc contre-transfert et empathie, c'est de ne pas considérer l'analyse comme une expérience de langage. Parce que dans les deux conceptions de l'analyse dont je viens de vous parler, l'expérience est définie comme expérience émotionnelle. Du point de vue lacanien, quand il y a contre-transfert, c'est-à-dire quand l'inconscient de l'analyste est mobilisé, la solution, c'est l'analyse de l'analyste. Soit son auto-analyse, s'il est allé assez loin pour pouvoir poursuivre seul, soit sa reprise d'analyse, s'il n'est plus sur le divan. Ce qui oriente l'enseignement de Lacan, c'est une position analytique à partir d'un « je ne pense pas », position extérieure à l'inconscient. Alors, dans le graphe de Lacan, que j'ai essayé de vous éclaircir, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, vous trouvez donc les termes de pulsion, fantasme, de moi, etc. Il n'y a pas le terme d'inconscient, comme vous avez pu le remarquer. Parce que l'inconscient, c'est la relation des termes ensemble. C'est tout ça, en fait. Lacan loge l'inconscient dans une dimension transindividuelle, mais beaucoup plus complexe qu'une relation à deux. Parce qu'elle comporte parole, langage et discours. Il ramène l'expérience analytique à son fondement dans la parole. Il resitue la fonction de la parole dans le champ du langage et de sa structure. Par là même, il réintroduit dans cette expérience une structure qui a ses lois, ses contraintes, où il y a de l'impossible et par conséquent du réel. On n'a rien chez Lacan qui soit de l'ordre de la soupe interactive, puisque la fonction de l'autre préserve toujours une instance d'étrangeté à l'expérience. L'introduction par Lacan du sujet supposé savoir, c'est aussi une manière de dire que personne ne sait rien avant que les signifiants soient sortis. Pour Lacan, et ceux qui s'en inspirent, il s'interpose toujours quelque chose entre l'analyste et le patient. Quelque chose qui vient gêner la communication affective, c'est le discours, ce quelque chose. C'est la fonction de ce qui se dit. Qu'on dise reste toujours oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend, dira-t-il dans l'étourdi. Écrira-t-il. Dans son texte « Intervention sur le transfert » paru dans les écrits, Lacan définit l'expérience analytique comme se déroulant tout entière dans le rapport de sujet à sujet. Tiens, intersubjectivité donc. Mais Lacan d'emblée dispose et articule contre transfert et intersubjectivité. Et il ne loge pas du tout le contre-transfert dans l'intersubjectivité. Lacan réécrit le cas de Dora d'une manière très éclairante, à partir d'une série de renversements dialectiques, C'est vraiment un petit article très intéressant, cet article intervention sur le transfert. Très éclairant. Et d'un autre côté, donc d'un côté les renversements dialectiques, et d'un autre côté, il y a le transfert et le contre-transfert que Lacan situe comme ce qui a fait obstacle au processus dialectique de la cure de Dora. Ce qui empêche Freud d'apporter à Dora l'interprétation qui lui aurait permis de reconnaître dans Madame K, et non pas dans Monsieur K, l'objet réel de son amour. C'est le contre-transfert de Freud. C'est-à-dire que Lacan situe classiquement le contre-transfert de façon négative, comme la somme des préjugés, des embarras, voire de l'insuffisante formation de l'analyste. Là, c'était les préjugés de Freud sur l'homosexualité féminine qui faisaient obstacle pour lui de voir que c'était bien Madame K l'objet du désir de Dora. Le contre-transfert, c'est aussi le nom de l'insuffisance de l'analyste à apporter l'interprétation qui conviendrait, celle qui permettrait à la dialectique de se poursuivre. C'est au point que ce n'est pas seulement le contre-transfert qui est critiqué et soupçonné par Lacan, mais le transfert lui-même. Dans ce texte sur Dora, c'est une intervention contre le transfert lui-même. Lacan stigmatise le transfert au titre de répétition comme une esquisse du mode de jouir. Quelque chose dont il est difficile de se séparer. Il qualifie le transfert de l'apparition des modes permanents selon lesquels le sujet constitue ses objets. Élément de répétition, donc. Quand il y a transfert, le sujet répète et reproduit la constitution du partenaire symptôme. Lacan conçoit donc l'analyse comme le lieu d'un conflit entre inertie et dynamique. Il situe le transfert du patient comme un élément qui relève de l'inertie répétitive. Mais, il dit aussi, le transfert n'est rien de réel dans le sujet. Et bien plus tard, en 1967, c'est le même terme qu'il utilisera s'agissant du sujet supposé savoir, disant « le sujet supposé savoir n'est pas réel ». Déjà en 1951, le soupçon porté sur le transfert appelle le terme de leurre. Interpréter le transfert, c'est remplir un leurre par un leurre, pardon, c'est remplir par un leurre le vide de ce point mort. Dans son compte-rendu du séminaire L'acte analytique, Lacan dit que l'analyste est amené à supposer le leurre même qui pour lui n'est plus tenable. Pour Lacan, l'analyste dans la cure joue d'un leurre utile. Lacan fait du sujet supposé savoir un leurre qui est de structure, celui qui fait croire que l'inconscient est déjà là. On voit effectivement dans la clinique des cures de névrosés que ce n'est pas en les détrompant du transfert, en rectifiant leur point de vue sur l'analyste et sa si grande perspicacité, en se montrant défaillant ou en reconnaissant ses erreurs, qu'on sort l'analysant du leurre dans lequel il est prisonnier. Ce n'est pas avec un analyste désireux de me babysitter que j'avais une chance de sortir de ma position de victime pour séduire l'autre, l'amadouer. Victime séductrice et séduisante pour moi-même. Mais bien avec un analyste soigné de sa culpabilité et de ses bonnes manières, qu'il a par ailleurs dans la vie de tous les jours de bonnes manières. Ce n'est qu'au bout de ce chemin de l'heure, quand l'analysant peut apercevoir, le plus souvent dans un éclair, sa fiction, que celle-ci alors cesse de se projeter sur le monde, non seulement dans la cure, mais aussi dans sa réalité quotidienne. Sa réalité change du tout au tout, et le plus souvent brusquement. Et il peut mesurer alors à quel point il n'y a pas une réalité, mais des réalités différentes pour chacun. Voilà.
Merci beaucoup, Cathy Langelet. Je vais peut-être commencer comme à l'habitude par des choses qui sont passées en vous écoutant. Quelque chose que vous avez dit au début et que vous avez repris d'ailleurs à un moment dans votre exposé, en se demandant au fond quel était pour chacun qui entre en cure ce premier acte analytique qui, si je l'ai bien compris, fait point de transfert, permet que le transfert s'installe pour quelqu'un qui rentre en analyse. Et je me disais, au fond, vous avez parlé avant de l'adresse, de l'importance de l'adresse à l'analyste. Et je me disais, au fond, est-ce que ce point, ce moment où le transfert se met en place, peut se situer déjà avant la première rencontre? Ça, c'était ma question. Mais d'une certaine façon, vous y avez répondu en parlant de l'adresse. Je pense aussi aux traits sur lesquels on choisit son analyste si on l'a croisé par ailleurs dans d'autres cadres. Là, ce n'est plus une question d'adresse, ça se situe à un autre niveau. Alors, j'avais aussi une question. Vous avez dit, c'est quand l'autre manque d'un signifiant, qu'il y a aussi une barre sur le sujet. Donc, je l'entends, c'est quand on découvre qu'il y a un manque dans l'autre, que l'autre est barré, au fond que le sujet aussi devient barré. Et je me demandais si on pouvait rapprocher ça au moment où l'enfant découvre qu'il n'est pas le manque de sa mère. Je faisais au fond le lien entre ce moment du développement, dans le développement de l'enfant, où tout d'un coup il se rend compte bien que sa mère elle a un intérêt pour ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire qu'elle est manquante. Voilà, c'était une question. Et au fond, je me demandais aussi, j'en resterai là, j'en ai plein d'autres, mais j'en resterai là, sur le fait que on voit bien dans le premier étage du grave du désir que, au fond, ce qui fait pour un sujet qu'à un moment il y a un sens, une signification, c'est que dans la chaîne signifiante, il y met un arrêt et que ça fait effet de sens pour lui. Et donc que dans l'effet de sens qui est produit, il y a la question de son désir, puisqu'il va donner sens en achoppant, en accrochant à un moment dans la chaîne signifiante, et ça fait sens pour lui. Et je me disais, au fond, l'interprétation de l'analyste qui joue aussi sur cette chaîne signifiante, ça peut être une coupure de séance, ça peut être relever un dire, le répéter, au fond, l'interprétation vient agir sur le déroulement de la chaîne signifiante. En quoi elle se sépare, elle se différencie justement de ce qu'il en est du désir du sujet. Et je pensais à cette formule que Lacan avait de dire l'interprétation, c'est un mi-dire. Voilà.
Ça fait beaucoup de choses, mais je me rends compte maintenant que si je devais recommencer ce que j'ai fait ce soir, je commencerais par le grave du désir, par vous l'introduire, pour ensuite réavancer dessus avec avec le texte de Lacan. Je pense que si vous le réutilisez maintenant pour relire le texte de Lacan, ça s'éclairera. Mais comme ça, c'est quelque chose qui m'apparaît après coup comme un peu emmêlé. Alors, dans les multiples questions, je me souviens déjà plus de toutes. Je suis fatiguée.
Donc, la première, c'était au fond ce qui fait transfert peut-il se situer avant la première séance, pour le dire
oui,
simplement.
C'est évidemment oui. C'est évidemment oui. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un arrive, normalement, quand quelqu'un arrive chez un psychanalyste, c'est qu'il a quelque chose cloche et que quelque part il peut avoir une réponse. Ça, c'est déjà le transfert. C'est le supposer que quelque part il y a une réponse à ce qui cloche pour lui. Mais toute la manœuvre, qui est fort différente si quelqu'un vous arrive en vous ayant déniché dans le bottin, ou si quelqu'un vous arrive parce qu'on lui a dit « Ah, tu sais, je l'ai entendu parler. » Et là, elle a vraiment dit quelque chose de très intéressant. C'est chez elle qu'il faut aller. C'est tout à fait différent. C'est ce que vous pourrez énoncer aura ou pas sa portée tout à fait différemment à la première séance. Ça m'avait naïvement toujours posé question, notamment dans les présentations de malades que font des psychanalystes pour lesquels j'ai eu beaucoup de transferts, j'en ai toujours d'ailleurs, à Paris, qui faisaient des présentations de malades dans des hôpitaux. Et je me disais, mais comment ça se fait que ce qu'ils disent n'a pas plus d'effet sur le sujet ? Comment ça se fait que ça ne produit pas un effet miracle? Ben voilà. Il m'a fallu des années pour le comprendre, mais c'est que ces patients-là n'avaient pas de transfert. Ils venaient là pour témoigner de quelque chose qui leur arrive dans l'existence, mais pas avec l'idée que l'autre qu'ils allaient rencontrer avait une réponse. Vous pouvez les éclairer sur ce qui leur arrivait. Donc, quoi que pouvait énoncer l'analyste en présentation de malade, il n'était pas en position d'analyste, en fait, pour le patient. Du moins, il est très très rare que ça ait cet effet-là. Alors, je sais pourquoi j'ai du mal à me souvenir des questions, c'est parce qu'il y en a une autre que tu as énoncée tout à l'heure, Anne, concernant la dernière interprétation, le paradoxe de la dernière interprétation, l'ultime qui produirait enfin la fin de l'analyse. Ça m'a arrêté quand je t'ai entendu, parce que c'est du même ordre que la juste position, la bonne interprétation qu'il y aurait à produire pour que le miracle enfin se passe. Il y a une position d'analyste certes à tenir, mais ce qui fait interprétation pour le sujet n'est pas toujours un calcul très précis de l'analyste. Il y a des choses qui font interprétation et qui permettent la sortie sans que ce soit mesuré au millimètre près. Jacques-Alain Miller a pu dire lui-même, lors du témoignage de Bernard Sénave concernant sa fin d'analyse, que Bernard Sénave disant voilà telle interprétation, c'est quand Miller lui avait rétorquer qu'il jouissait un peu trop de ses fantasmes, que ça suffisait comme ça. Et Miller de lui dire, je vous ai dit ça, moi ? Mais quelle connerie ! Tout ça pour dire, il l'a développé d'ailleurs ensuite, que l'interprétation, c'est parfois quelque chose qui est énoncé pas très malin. C'est l'analysant qui en fait quelque chose d'éminent. Parce que justement, il y a cette question du transfert. Et la question du transfert après, ben, pour moi, je dirais qu'il y a une part évidemment irréductible, et il y a quand même quelque chose qui est radicalement différent. C'est vraiment ce que vous ne pouviez pas voir du fait de toutes les projections que vous déversiez sur l'analyste. Notamment, je ne pouvais pas voir que mon analyste était complètement débordé par un congrès. Je ne pouvais, comme réponse fantasmatique, que produire. Et donc, il m'a oublié. C'est ça qui a plu à la fin de la cure. Enfin, c'est ça plus tout le reste. Mais c'est vous pouvez enfin voir l'analyste en tant qu'être humain, en tant que aussi défaillant. Mais vous pouvez continuer à voir la valeur aussi de ce qu'il dit. Hein, je veux dire, si vous l'avez pas choisi complètement idiot, vous pouvez continuer à voir après que ce qu'il dit c'est intelligent, et vous pouvez reconnaître ça. Et continuer à apprécier ce qu'il fait, ce qu'il dit, et vous en orienter. Il n'y a pas non plus à tout jeter à la fin. Seulement, ça part d'objet. Ce dont vous vous débarrassez, c'est de l'analyste en tant qu'objet A.
Au fond, ça. Enfin, je rebondis deux secondes sur les journées qu'on a partagé chacun différemment. Il y avait énormément d'interventions, mais ça me fait penser à deux choses. Au fond, le témoignage du Goffreda sur la fin de son analyse et sur comment ce transfert finalement se transforme justement. Il a pu en dire que pendant un certain nombre d'années, ce qui l'amenait encore à aller chez son analyste, c'était voir son analyste autant de minutes par semaine. Et ça se réduisait juste à ça. Et que, à partir d'un certain moment, en tout cas si j'ai bien compris ce qu'il avait pu en transmettre, c'est que de cette position dissymétrique naissait. Enfin, il y avait l'arrêt de l'analyse, et puis naissait un « Eh bien, je suis là aussi, comme vous avez été là pour moi. » Donc, quelque chose qui change de position et qui quitte cette dissymétrie radicale, finalement. Enfin, ça, c'était une façon de témoigner pour lui de cette fin de l'analyse, mais dire « Je suis là pour vous », ce n'est plus dire « Il n'y a plus rien, il reste quelque chose. » Et j'avais aussi été... impressionné par le récit, c'est Estella Suez Solano, voilà, qui témoignait au fond de qu'est-ce que c'était devenir analyste et ce qui avait fait à un moment qu'elle était venue en France, qu'elle avait eu ce désir de voir Lacan et de devenir analyste chez lui, c'est qu'au fond elle était dans une je dirais, elle était déjà dans une pratique d'analyste et elle se rendait compte que ça fonctionnait pas. Ses patients, à un certain moment, soit les symptômes s'enflammaient, soit ils se déplaçaient, soit ils quittaient, ils ne venaient plus, et que ça se répétait. Et ça restait pour elle quelque chose qui était finalement de l'ordre de quelque chose qui lui échappe. Et elle a très bien expliqué que ce qui lui échappait, c'est que elle n'avait pas pu aller au bout. Finalement de quelque chose qui était de l'ordre du contre-transfert, de quelque chose qui n'avait pas été où elle n'avait pas poussé son analyse suffisamment loin, et que elle attribuait ça à l'orientation qu'elle avait à l'époque, qui était nettement plus freudienne que lacanienne, avec tout ce que ça engendre au niveau justement de cette position de l'analyste dont vous avez parlé.